Diptyque est le magazine de référence de l'art contemporain africain. Il est produit, publié et imprimé à Casablanca au Maroc. Avec ce podcast, nous souhaitons vous donner accès aux personnalités qui animent la scène artistique africaine et marocaine, des artistes aux galeristes en passant par les curateurs et commissaires d'exposition. Ce podcast vous est offert avec le soutien du groupe Maroc Télécom, partenaire de l'art et de la création.
Chers auditeurs du podcast Diptyque, bonjour. Aujourd'hui, je reçois Diadi Diop à distance à l'occasion de son solo show au comptoir des mines Galerie à Marrakech. Diadi est un artiste sénégalais qui est né en 73 et qui vit et travaille à Paris. Il est arrivé en France en 94 et il souhaitait se former d'abord au dessin animé et à la bande dessinée. Mais finalement, il découvre les potentialités de la sculpture et change complètement de voie. Mais cependant, sa passion pour le dessin et le cinéma nourrit son travail, et notamment dans le parti pris réaliste de ses installations monumentales. Pour ma part, je l'ai découvert à la Biennale de Dakar à deux reprises, par ces grandes sculptures rouges de nageurs ou de marcheurs qui sont reconnaissables entre toutes. Son travail, ses œuvres sont traversées évidemment par les questions d'identité, d'exil et de violence. Ce sont des formes réalistes qui questionnent les rapports humains, mais qui ne tombent jamais dans le pathos. Et parfois, donc, on peut même déceler une part d'humour et de dérision. J'espère que vous avez pu voir ces sculptures au comptoir des mines, et si ce n'est pas le cas, vous pouvez en trouver une dans les jardins du Saadi à Marrakech et bien sûr dans de nombreux endroits en France et au Sénégal, ce que va nous expliquer Diadi aujourd'hui. Diadi, bonjour.
Bonjour Myriam, merci de m'avoir invité.
C'est un plaisir. Donc en fait, on s'est vu il y a à peine quelques jours à Marrakech pour le vernissage de ton exposition Fraternité. Et là, on se parle à distance, parce qu'entre-temps, tu es rentrée à Paris et moi, je suis rentrée à Casa. Je t'ai découvert donc à Marrakech au comptoir des mines avec Fraternité. Certains connaissent tes sculptures rouges très identifiables. Et pour ma part, je t'ai découvert pour la première fois à la Biennale de Dakar. La première question que j'ai envie de te poser, Diadi, est-ce que tu peux nous dire ce que ça représente pour toi de parler de Fraternité à Marrakech en pleine Assemblée Générale du FMI?
Eh bien, Fraternité à Marrakech, c'est... Alors l'idée, ce que je dois dire d'abord, c'est que l'impulsion, c'était d'abord la fraternité que j'ai pu ressentir par le fait d'être d'abord accueilli par Hicham Daoudi dans sa galerie, mais aussi par tout ce que j'ai pu ressentir comme émotion au Maroc pendant toute la période où j'y ai travaillé pour créer des nouvelles œuvres, l'accueil que j'ai ressenti. À la base, c'était pas Fraternité qui était prévu, mais c'est au cours de tout ce process de création que l'idée s'est imposée. Je me suis senti tellement bien au Maroc que le mot fraternité était le plus pertinent pour moi et comme pour Hicham. Après, pendant que nous y sommes et que le FMI est en pleine assemblée au Maroc, on peut dire que cette fraternité, qui est une évidence pour moi, et quelque chose que nous avons tous en commun avec tous les peuples. Et c'est quelque chose qui devrait prévaloir. Or, ce n'est pas le cas. Actuellement, l'actualité nous montre que la fraternité, comme dans toutes les familles, peut être abîmée. Et c'est l'occasion aussi de dire que des moments comme ça, des expositions comme ça ont pour vocation de créer un dialogue, une volonté de trouver des solutions.
Alors on va essayer de pour que nos auditeurs comprennent, j'espère qu'ils auront l'occasion d'aller voir l'expo qui dure plusieurs mois.
Mais pour qu'ils comprennent vraiment, pour que ce mot fraternité et les concepts que tu évoques ne restent pas abstraits, on va essayer d'entrer un petit peu plus dans l'articulation de comment on fabrique justement cette valeur de fraternité dans un projet d'art contemporain. Et pour commencer, peut-être pour mieux comprendre ta technique et le travail que tu fais, est-ce que tu pourrais nous dire, parce qu'en fait j'ai lu dans ta bio que tu te destinais d'abord à la bande dessinée, et finalement aujourd'hui tu es connu pour tes sculptures rouges très identifiables, et comment est-ce que tu es passé dans ton processus personnel de la BD à la sculpture monumentale? Pour moi c'est presque deux objets d'art pratiquement diamétralement opposés. Comment on passe de l'un à l'autre?
Oui, effectivement. C'est que, en fait, je faisais de la BD quand j'étais au lycée. J'avais un copain qui écrivait des que je vais citer d'ailleurs pour lui rendre hommage. Il s'appelle Aaron Lambotch. Il écrivait des scénarios et moi, je dessinais l'histoire. C'était une occupation comme ça, périscolaire, on va dire. Et ça avait pas mal de succès. On avait même réussi à approcher le journal le plus important, le quotidien national Le Soleil, qui voulait l'acheter et la publier en plusieurs épisodes.
Et à quoi ressemblaient tes dessins? C'était quel genre de dessin?
C'était une histoire policière. Une histoire de serial killer déjà. C'était quand j'étais en seconde et c'était des dessins assez réalistes, hein. C'était pas du cartoon façon manga. J'essayais déjà de m'approcher d'un certain réalisme.
Ah, c'est intéressant ça. On va revenir à cette question justement du réalisme. Donc c'était de la BD réaliste.
Oui, réaliste et vraiment pas fantastique. On était vraiment dans le réel. Donc ça, c'est ce que je faisais. Le dessin a toujours été ma passion, c'était même un moteur, parce que à vrai dire, j'allais à l'école sans perspective. Par le biais de l'école. Je ne voyais pas ce que je pouvais faire avec l'école. Je me sentais autre chose. Et la BD, donc, était ma porte d'entrée dans l'art. Et je savais que j'allais faire une activité artistique plus tard.
Et ta BD, elle parlait déjà à tes contemporains. Comment était reçue ta BD par tes amis, tes camarades de classe?
Ils étaient tous... Dans mon souvenir, en tout cas, ils étaient tous très enthousiastes, ils adoraient les dessins. J'étais parti pour vraiment être un dessinateur de BD.
Et alors, du coup, le passage à la sculpture, alors?
Eh bien, le passage à la sculpture s'est fait grâce au fait que pour entrer dans les écoles de BD et dessins animés, les grandes écoles en France, il fallait que je passe par une école préparatoire. Et c'est lors de cette école, cette année en prépa, où on nous obligeait à toucher à toutes les autres disciplines, que j'ai découvert le modelage. Et tout de suite, il y a eu un déclic avec l'argile. Et ce déclic a fait que j'étais complètement fasciné par le fait de passer de la 2D à la 3D. Et le fait de donner un corps physique au dessin que je faisais. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment de la BD que je devrais faire? Je pourrais peut-être aller aux Beaux-Arts, faire de la sculpture, apprendre à être sculpteur, et cela ne m'empêcherait pas de revenir à la BD plus tard, si j'y tiens vraiment.
Bien sûr.
Et alors... Je suis donc rentré au Beaux-Arts, j'ai passé le concours, parce que toutes ces écoles-là, on y rentre sur concours, c'est pour ça que j'avais besoin d'une classe préparatoire, préparatoire au concours des grandes écoles. Mmh. Et donc ça a marché, les Beaux-Arts, et tout de suite je suis allé dans un atelier de sculpture traditionnelle, où on enseigne les académies, mais aussi les matériaux nouveaux, c'est-à-dire tout ce qui est résine, tout ce qui est travail avec des matériaux de synthèse. Et c'est comme ça que je suis sorti diplômé d'un atelier de sculpture. Et finalement, je n'ai jamais réellement éprouvé le besoin de revenir au dessin animé ou à la bande dessinée.
Alors en fait, j'ai vu dans le catalogue, très beau catalogue d'ailleurs que publie le Comptoir des Mines, il y a un très beau texte de Haj Malik Ndiaye qui était directeur artistique de la Biennale de Dakar en 2022. Le texte est vraiment, oui. Formidable. J'engage toutes les personnes qui viendront voir ton expo à lire ce texte qui est vraiment, qui élucide beaucoup de choses et puis qui rentre des concepts vraiment très intéressants. Alors évidemment, il démarre avec un parallèle avec Ousmane Sow, mais pour justement déterminer ce qui vraiment vous différencie tous les deux. Est-ce que tu peux me dire, de ton point de vue, est-ce que tu connaissais Ousmane Sow quand tu as démarré, donc il nous a quittés en 2016, est-ce que tu connaissais le travail d'Ousmane Sow quand tu as démarré la sculpture, et de quelle manière tu t'es démarqué évidemment d'une figure tutélaire comme celle d'Ousmane Sow?
Alors, j'apprécie beaucoup cette question parce que en fait, j'ai rencontré Ousmane Sow sur le Pont des Arts pendant qu'il faisait son exposition. Mmh. Et moi, j'étais étudiant à l'époque. J'étais donc juste là, en face. L'expo se passe. J'avais juste à sortir de mon atelier, j'étais devant l'exposition. Parce que mon atelier était situé sur le quai Malaquais. Et le Pont des Arts est juste là. Et donc, quand il y a eu l'exposition, alors évidemment, tous les jours, j'étais là, sur le pont, à regarder les immenses sculptures de Ousmane Sow. J'étais ébahi. J'étais vraiment happé par leur présence, quoi. Et donc, je me suis approché de lui et je lui ai dit « Bonjour, monsieur. Je suis un jeune étudiant sénégalais, ici à l'école de Boussa. Je fais de la sculpture, j'apprends la sculpture. » Et donc, il m'a encouragé. Il a été vraiment très chaleureux. Et il m'a dit que si un jour je venais à Dakar, ne pas manquer de lui faire signe. Et ce que j'ai fait, l'année d'après, je suis allé à Dakar. Je l'ai appelé, on s'est rencontrés, on a longuement discuté sur ce que c'est que d'être sculpteur, ce que c'est que d'être artiste aujourd'hui. Et il m'a vraiment aidé à maintenir le cap, en fait. Parce que j'étais dans une période de doute sur la place de la sculpture figurative dans l'art contemporain.
Oui, parce qu'il y a cette question de la représentation du corps, elle est centrale. Comment on, tout d'un coup, on décide qu'on va affronter cette représentation du corps qui ne va pas de soi dans nos régions, contrairement évidemment à l'Europe et à la tradition peut-être occidentale. On ne représente pas. Alors, on représente éventuellement les animaux, les végétaux, mais le corps humain. Comment on affronte ce défi?
Cet aspect est tout à fait vrai, que vous venez de citer, mais il y avait aussi comment faire de la sculpture figurative humaine quand, à l'époque, dans les années 2000, fin 90-2000, l'art contemporain, c'était pas du tout ça. Oui. On faisait plus de... Hein, ça, c'est juste revenu, c'est en train de revenir... La figuration
tout
dans
à fait. C'est vrai que ça, c'est un sujet intéressant. Oui. C'est-à-dire, comment on trouve judicieux de se remettre dans de la figuration dans les années 2000, où c'est le culte de l'abstraction, où les avant-gardes, il faut inventer des choses nouvelles, disruptives. Alors finalement, comment tu as trouvé ton point de vue? Là, je pense qu'on va arriver donc au cœur de tes choix, de ton choix de couleur, de ton choix de technique, ton choix de représentation, les corps tronqués, etc. Donc, comment on arrive à cette réflexion à ce moment-là, dans les années 2000?
Eh bien, bien que la plupart de mes comment dire, tous ceux de ma promotion, la plupart de ceux de ma promotion étaient dans l'abstraction. Et c'est ce qui était en tout cas attendu. Hein. Quand on est dans un cursus scolaire, on sent quelle est la mode en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on attend de nous? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être bien vu? Et ce qui était bien vu, donc, c'était le concept, le minimalisme, l'abstraction. C'est ce qui était dans l'air du temps. Et moi, je me suis dit, mais si je dois faire ce qui est attendu, quel intérêt, en quelque sorte? Quel intérêt de faire quelque chose, de téléphoner? Et je me suis entêté, parce que moi, ce qui m'a toujours passionné, c'était la représentation du corps. Et je me suis dit que bah voilà, on peut tout à fait surprendre, on peut tout à fait innover, tout en restant fidèle à ce qui nous passionne. Et c'est là qu'est venue la réflexion. Mais alors à ce moment-là, comment on fait pour innover? Comment on fait pour dire des choses de nouvelles manières? C'est parce qu'il s'agit pas d'inventer. On ne peut, je pense pas. Je ne crois pas en l'invention. On ne peut que recréer des choses.
À partir de ce qui a été fait, bien sûr.
Voilà. Et donc, du coup, il s'agissait de trouver une combinaison pertinente. Et la mienne a été de rester donc, tout en restant dans la figuration humaine, et de dire que... nous sommes, tant qu'il y aura des hommes, il y a des choses à dire sur l'homme. Pourquoi tout de suite vouloir tout effacer? Parce que c'est attendu. Et il faut juste trouver une façon nouvelle de le dire.
C'est très beau ce que tu dis là, tant qu'il y aura des hommes. Ça pourrait presque être le titre de cette exposition aussi, Fraternité est un très beau titre, mais tant qu'il y aura des hommes. Alors là, on doit justement, je dois, pour les auditeurs éventuellement qui écouteront ce podcast avant d'avoir vu tes sculptures, donc les sculptures de Diadi sont rouges et ce sont des corps, donc non pas à l'échelle 1, mais la plupart du temps, donc des corps monumentaux. Et donc évidemment, celles qui t'ont fait connaître, qui sont absolument sublimes, sont les nageurs. Qui sont reconnaissables, donc parce qu'en fait il y a qu'une seule partie du corps du nageur qui sort, exactement comme si on voyait un nageur nager dans l'eau. Donc la partie immergée sous l'eau n'est pas visible. Donc quand c'est posé dans un jardin, en gros on voit uniquement le visage de profil, le bras donc du mouvement de nage libre qui est à l'arrière dans une perfection formelle qui est vraiment force l'admiration. Et puis ce qui aussi fait couler beaucoup d'encre, c'est ce petit sourire un peu comparable à un sourire de Bouddha, un sourire très énigmatique, et un petit bout de main qui sort et qui est la main qui s'apprête à faire ce que les nageurs appellent la poussée finale. Donc tu choisis, donc voilà, donc ce sont des, il y a évidemment aussi le lanceur de poids, il y a le nageur qui fait peut-être une nage papillon aussi. Donc est-ce que tu peux nous expliquer à un moment donné comment tu as cette idée ou cette intuition que peut-être représenter voilà, des mouvements dans une perfection formelle, mais avec cette énigme de la partie manquante, comment ça vient? Et puis on parlera évidemment de la question du rouge, ça on en parle juste après, donc je t'écoute.
Eh bien, l'idée c'était de montrer que... de créer une opposition entre la tension, justement, la tension d'un geste physique qui demande un gros effort, et d'opposer cette tension à la sensation de paix qui est exprimée par le sourire, justement. Et cette opposition, à mon avis, c'est ce qui crée l'intérêt, en fait, l'attrait de l'œuvre, mis à part la couleur. À laquelle on reviendra plus tard, c'est l'opposition justement entre le geste. On s'attend à ce qu'on fasse une grimace quand on
tout à fait
une expression
de respiration,
de peine, voilà, de respiration ou même de douleur. Mais non, là j'ai préféré mettre un visage apaisé, comme pour dire que c'est grâce à l'effort qu'on obtient finalement qu'on atteint cette espèce d'extase. C'est grâce à l'effort. Alors là, on peut y voir plein d'images. Dans l'effort, on peut parler du travail, on peut parler de persévérance, on peut parler d'abnégation. Toutes ces notions peuvent être incluses dedans. Et c'est un moyen de dire qu'il faut continuer, quoi. Il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Et dans tous les domaines, que ce soit dans le social, que ce soit dans l'économique, tous les domaines sont concernés.
Bien sûr. Alors la question des... Donc il y a évidemment les grands personnages monumentaux qui justement frappent par leur monumentalité. Et il y a aussi les foules, alors qui ne sont pas à l'échelle 1, mais presque. Est-ce que tu peux nous parler des foules? Alors les foules aussi sont très impressionnantes parce que tu crées un système où les personnages, sont évidemment toujours avec cette même perfection formelle, sortent du sol comme s'ils étaient autogénérés par la matière, puisque la matière forme une flaque au sol qui est aussi le socle de la pièce. Oui. Donc les foules disent quand même autre chose. Et alors là, je vais citer un passage du texte de Alhaj Malik Diop, qui dit quelque chose de vraiment très beau. Donc ces personnages sont debout dans la dignité, ils adhèrent au monde et aspirent, c'est très beau, ils adhèrent au monde, puisque justement ça parle aussi du socle, ils adhèrent au monde et aspirent à plus de reconnaissance, ils parlent de l'homme en général, ils sont graves dans leur posture, ils s'affirment silencieux et austères, debout ou assis, les yeux ouverts ou fermés, émergeant de nulle part ou emmêlés dans des structures complexes, cachés ou apparents. Ils sont animés par une volonté incommensurable de se libérer de quelque chose. Ils sont debout contre les préjugés, debout face à l'histoire. Ils amplifient la noblesse de l'espèce humaine. C'est vraiment, moi, c'est un texte qui m'a, je vous dis très franchement, c'est un texte qui m'a mis les larmes aux yeux. Je trouve qu'entre vous deux, là, il y a une circulation entre les concepts et le texte d'Ndiaye et tes sculptures qui vraiment est bouleversant, je trouve, hein, vraiment. Je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus après ça.
C'est vrai que moi aussi, c'est quand j'ai lu son texte, je me suis dit, waouh,
ah ouais.
Il a vraiment réussi à aller palper le cœur même de tout ce que j'ai voulu dire, quoi. Et effectivement, cette idée de foule qui émerge du sol, parce que c'est ça, en fait, littéralement. Cette œuvre s'appelle Renaissance.
Oui.
Et Renaissance, c'était d'abord quelque chose. C'est parti de quelque chose de très personnel, en fait. C'est quelque chose qui m'est arrivé à moi dans ma vie. J'ai eu à un moment donné un très très gros chagrin. Et ce chagrin, c'est quand j'ai. Bon, je ne suis pas le seul, évidemment, à avoir vécu ça. Mais à un niveau personnel, c'était quelque chose de très, très... C'était une montagne, en fait, à escalader. C'était quand j'ai perdu mon père, j'avais 13 ans. Et depuis cet âge, en fait, et c'est là que je me suis vraiment réfugié dans le dessin pour rester en vie, en quelque sorte, parce que j'étais déprimé. À partir de là, il fallait que je renaisse en quelque sorte. Il fallait que si je n'acceptais pas de me battre pour rester moi, rester avec ma famille, le reste de ma famille, je pense que oui, je serais pas là, je serais plus là aujourd'hui. Mais grâce à ce combat, aidé par là. J'étais vraiment aidé par là. J'ai, je pense, accompli une forme de renaissance, mais une renaissance à très très long terme, puisque je pense que j'y suis encore dans la renaissance aujourd'hui. Et elle n'est pas encore aboutie, je pense qu'elle est en train d'aboutir, mais ce que j'ai voulu faire par la suite, c'est appliquer cette notion de renaissance de soi à un groupe. Si ça peut m'arriver à moi, ça peut arriver à un petit groupe. Si ça peut arriver à un petit groupe, ça peut arriver à une foule. Et si ça peut arriver à une foule, ça peut arriver à toute une nation. Et par extension, si on continue, après, c'est le monde entier.
Oui.
Donc, je pense que cette idée de renaissance, bien que perçue à un niveau personnel très jeune, c'est quelque chose, en fait, qui concerne tout le monde.
Ça, et
c'est pour ça que j'ai fait cette œuvre.
On le ressent très bien dans cette sculpture Renaissance qu'on avait pu découvrir à la Biennale de Dakar en 2018. Et je pense que, évidemment, après, en 2022 aussi, c'était sur le parcours de la Corniche. Je pense que vous avez dû bien travailler ensemble. C'est l'époque où Haj Malik Ndiaye était directeur artistique de la Biennale. Donc, on sent vraiment, ce que nous observons, nous, au niveau du magazine, une conversation très riche et très féconde entre un artiste et un commissaire d'exposition. Donc, quelqu'un aussi qui pense l'art et puis qui aide un artiste aussi à accoucher de lui-même, à densifier la portée philosophique de son œuvre. C'est vraiment une œuvre qui est très très forte, justement parce qu'on voit donc la foule surgir de la matière avec un homme qui guide cette foule et qui est le plus grand. Et puis on sent que voilà, que c'est une œuvre que tu peux aussi faire dans des volumes. C'est une œuvre qui peut être éditée dans des volumes colossaux avec cette idée de gradation d'humains qui sont classés du plus grand au plus petit et puis qui émergent les uns derrière les autres. Alors, peut-être qu'on peut, à ce moment-là, justement, puisqu'on parle aussi de cette douleur personnelle que tu arrives à rendre aussi, donc du personnel à l'universel, dont tu arrives à rendre un peu l'universalité par ces sculptures, est-ce que tu peux nous parler de cette couleur rouge, justement, qui joue peut-être, évidemment, un rôle de reconnaissance de ton œuvre, mais qui, certainement, permet aussi de toucher à l'universel?
Absolument. J'ai longuement réfléchi à l'aspect final à donner aux œuvres, aux personnages que je faisais, et la solution qui m'est venue la plus efficace, parce que l'idée c'était de représenter tout le monde. J'ai longtemps auparavant représenté les gens de façon ethno-géographique. C'est-à-dire que je représentais avant des Asiatiques, des Noirs, des Blancs, des Arabes, des Sud-Américains. Je représentais tout le monde. Et après, je me suis dit, mais quand même, ça, c'est un peu rébarbatif de montrer tout le temps des gens par leur couleur. Pourquoi ne pas trouver un moyen de représenter tout le monde en un seul jet? Que chaque personnage que tu crées, en fait, représente tout le monde. Et pour ça, il fallait qu'on fasse abstraction de tous les identifiants visibles, c'est-à-dire les cheveux, la couleur de la peau, tout ce qui est poil, tout ce qui est. Donc, j'ai décidé d'enlever tout ça de mes œuvres et d'utiliser la couleur rouge qui est celle qui est juste sous la peau. Et donc de faire comme si la peau était devenue une espèce d'emballage on va dire, transparent,
oui,
qui laissait voir la couleur derrière. D'ailleurs, je me rappelle à mon diplôme, j'avais expliqué ça comme ça, j'avais dit que je faisais comme si la peau était une enveloppe de cellophane. Donc j'avais vraiment comparé les êtres à un produit... qu'on peut acheter un produit comestible comme de la viande. Bon, c'était un peu brutal de dire ça comme ça, mais c'était la façon qui m'était venue.
Ouais, non, bien sûr. Alors justement sur cette question, sur ce rouge et sur cet archétype de l'humain avec un immense H, est-ce que tu penses que, alors d'abord évidemment la question que je pose en regardant de près, là je suis en train de regarder l'œuvre qui s'appelle Spiritualité. Je zoome sur les visages, évidemment, c'est toujours le même visage. Oui, je pense que c'est toujours le même. C'est un visage donc, qui est reproduit un peu comme dans les,
comme dans les films de science-fiction, là où on finit par avoir un seul être qui est reproduit à l'infini.
Oui.
Est-ce que tu l'as moulé sur, est-ce qu'il a été fait sur un visage que tu connais? Est-ce que c'est quelqu'un, ce visage?
Non, je fais toujours des visages comme ça, d'imagination.
Donc ça, c'est un archétype pur. C'est un archétype pur.
J'ai essayé en tout cas, oui, de faire un personnage. Après, c'est vrai que quand on s'attarde sur le visage, on peut malgré tout deviner une certaine apparence, une certaine origine qui va être plutôt sud. Mais ça, j'y peux rien, c'est dans les gènes.
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr.
Et quand on crée, quand on part d'imagination, on finit toujours par un peu se reproduire.
Bah, bien sûr. Alors justement, pardon, je t'écoute.
Et en fait, oui, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la volonté qu'il y a derrière de dire, moi je suis comme si, moi je suis comme ça. Voilà, tout le monde, on peut dire tout le monde est comme ça, ou je suis comme tout le monde. Ça aurait pu être l'inverse en fait.
Oui.
Mais voilà, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est cette volonté de réunir, de rassembler.
Alors évidemment, la dernière question qui se pose sur justement cette création d'un archétype qui est l'humain, c'est que je constate aussi que tu représentes pas du tout. Enfin, évidemment, c'est très compliqué de créer un archétype qui ne serait ni homme ni femme. Mais en fait, est-ce que tu représentes la femme? Ou est-ce que pour toi, l'homme, donc ça, en gommant aussi donc les origines, la couleur de peau, etc., tu as également choisi de ne pas parler du genre aussi?
En fait, si, je représente les corps féminins. Il est des questions qu'il y en ait dans cette expo Fraternité.
Oui.
Mais il y a une grande œuvre, justement. D'un corps de femme qui est rentré dans une pièce de façon assez forte, en cassant les murs, en quelque sorte.
Oui.
Et cette œuvre, finalement, on a décidé de ne pas la mettre parce que, vu les événements qui se sont passés récemment, ça risquait d'être mal interprété. Ça risquait d'être rattaché aux événements qu'il y a eu au Maroc récemment. Ça aurait même pu passer pour quelque chose de mauvais goût. Alors que cette œuvre avait été créée bien avant.
Oui.
Parce qu'on a vraiment l'impression qu'elle rentre et qu'elle casse les murs. Et après le tremblement de terre.
Je comprends.
La question s'est posée.
Oui.
Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, ça prenait une signification un petit peu, qui n'était pas forcément, qui n'était pas dans le l'œuvre.
Mais... C'est ça. Et aussi, il était question qu'il y ait un groupe, des coureurs, en fait. L'œuvre qui représente des coureurs,
oui,
deux groupes de coureurs qui sont en duel, devaient aussi exister en féminin. Mais le temps a été très, très éprouvant à Tétron dans les ateliers, et il y a eu de la casse sur l'original du modèle féminin, et avec le temps, l'œuvre n'a pas pu être éditée. Mais en tout cas, c'était juste pour vous rassurer, j'ai toujours fait des hommes et des femmes et des enfants. L'œuvre, mon diplôme, j'aimerais avoir l'occasion de vous montrer une image de ce que j'ai présenté pour mon diplôme des Beaux-Arts. C'était un ensemble, une famille, avec hommes, femmes, enfants, vieux, jeunes. Donc, j'ai vraiment essayé de représenter tout le monde. Et non, je n'élude pas du tout la représentation féminine. Pratiquement, il y en a autant dans mon travail d'hommes et de femmes.
En tout cas, moi, j'aurais...
Il y a une œuvre.
Oui.
Oui, pardon, excusez-moi, juste une dernière fois. Il y a une œuvre que j'avais présentée lors de la Biennale 2018.
De Dakar, oui.
De Dakar, dans le off. Pareil, sur la corniche, il y a un lieu qui s'appelle le Musée de la Femme, qui est dans une architecture, un lieu qui a une architecture grecque. ce qui ressemble vraiment à un temple grec. Et il y a deux temples qui sont face à face. Donc l'un est le museau de la femme et l'autre, je ne me rappelle plus ce que c'était. Et j'avais installé entre ces deux temples une sculpture monumentale aussi d'une femme qui s'extrait du sol en cassant donc le sol et qui se dirige vers le musée de la femme. Et ce que j'ai voulu représenter là, c'était justement une... on était en plein dans les scandales MeToo, comment dire, des faits divers assez monstrueux de maltraitance des femmes. Et j'ai voulu donc là faire une œuvre hommage d'une femme qui revient se faire justice elle-même.
Et elle est toujours visible, cette pièce au MUFEM, elle est toujours visible ou pas ?
Elle n'est plus là-bas, c'est une pièce que j'ai vendue à un collectionneur privé. Mais l'œuvre est à Dakar. Je l'ai vendue à Dakar.
Bon, ben en tout cas, merci beaucoup, Diadi, pour cet entretien très riche. Je pense que nos auditeurs auront l'occasion pendant tout le trimestre de voir cette grande exposition au comptoir des mines. Alors peut-être que certaines œuvres sont également visibles. Il y en a une en espace public, si on peut dire, ou semi-public, dans les jardins du Saadi, un nageur. Peut-être que tu peux nous dire rapidement où on peut voir tes œuvres, parce que ce sont des œuvres évidemment qui sont destinées à prendre place dans l'espace public. Donc ça évidemment, c'est en galerie, ça donne un effet, mais dans l'espace public, l'effet évidemment est décuplé. Et donc en fait, tu peux nous dire où on peut trouver au Maroc. Est-ce qu'au Maroc, tes œuvres sont visibles dans l'espace public ou à Dakar, bien entendu?
Non, il y a cette œuvre qui est à l'hôtel Estadi.
Oui.
Pour la voir, il faut rentrer dans un lieu. À Dakar, c'est aussi chez des particuliers pour l'instant. Mm-hmm. Il était question que j'y laisse des œuvres, mais c'est pas encore fini. On est encore en train de parler. Il devrait y en avoir à Dakar bientôt. Mais c'est surtout en France et aux États-Unis que j'ai des œuvres accessibles au public. Aux États-Unis, il y a une de mes œuvres dans... Bon, c'est un lieu privé, mais accessible en fait, parce que c'est dans les Hamptons, à Long Island. C'est dans l'enceinte d'une maison, mais on peut la voir en se promenant sur la plage. Il y a une de mes premières œuvres que j'avais faites lorsque j'étais au Beaux-Arts, qui représente un joueur de musique percussionniste qui fait 3 mètres de haut. Et à Paris, il y a ce grand nageur, le premier nageur que j'ai fait oui. En 2009. Il est dans l'enceinte du musée de l'histoire de l'immigration.
L'histoire de l'immigration, oui, celle-ci.
À la Porte Dorée. Et il y en a aussi un autre à Aix-en-Provence, dans un lieu qui s'appelle l'hôtel de Galifée, un centre d'art et aussi un salon de thé, un lieu de loisirs et de création aussi.
Merci beaucoup, Diadi. J'espère que nos auditeurs auront autant de plaisir que moi à écouter cet épisode. Et on retrouve donc tes œuvres au comptoir des mines pendant tout le trimestre. À bientôt, Diadi.
Merci beaucoup. Merci, Marie-Ossetti. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.